On s'en va rejoindre Hugues Léger du podcast Sur la ligne pour jaser tennis avec nous. Comment ça va, mon ami?
Salut Alex, salut les gars, ça va bien?
Good, good, très content de te parler encore aujourd'hui, Hugues. On va commencer par Victoria Mboko. C'est un résultat qui est quelque peu décevant hier pour la Canadienne après un beau parcours à Montréal. Comment tu l'as trouvé dans son match face à Barbara Krejcikova?
Ben, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'était son bandage quand même assez imposant au poignet droit. Donc visiblement, sa blessure qu'elle a eue en demi-finale ici à Montréal contre Ibakina n'est pas complètement guérie. Même que son bandage était plus important que ce qu'elle avait lors de la finale qu'elle a gagnée ici là, contre Osaka. Donc je pense que sa blessure est encore bien présente. Je l'ai pas trouvée dans une très bonne journée non plus, mais j'ai l'impression qu'on avait affaire à une joueuse blessée quand même hier qui était sûrement pas à 100%. L'a dit. Elle jouait contre Krejcikova, qui est quand même toute une cliente, là, championne de Wimbledon 2024, ex-deuxième mondiale, joueuse d'expérience, qui a très bien manœuvré son match aussi. Donc moi, je ferais pas de grand cas de cette défaite au premier tour, 6-3, 6-2. Sa progression, Alex, à Victoria Mboko, ne sera pas linéaire. Elle est déjà 23e mondiale. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, mais je suis convaincu qu'on a une joueuse qui va progresser encore et qui se dirige vers le top 10. Mais bon, premier tour rapide au US Open. Là, elle doit être quand même déçue de son passage à New York.
Est-ce que, Hugues, tu penses que elle et son équipe auraient dû prendre la décision de se retirer du US Open aussi, considérant l'ampleur du bandage? Parce qu'on l'a vu qu'elle avait des douleurs pendant le match. Elle bougeait beaucoup sa main sur la raquette, tournait son poignet pour essayer d'aller chercher de la flexibilité ou peut-être même chasser la douleur. Je reviens à ma question de base, mais penses-tu qu'elle aurait dû peut-être déclarer forfait?
Écoute, elle est très bien entourée. Je pense notamment à sa préparatrice physique, Virginie Tremblay, qu'on a reçue durant l'Omnium au podcast Sur la ligne. Ils l'ont suivie de manière quotidienne. Je serais pas étonné si elle avait eu aussi des injections de cortisone pour être à 100% ou le mieux possible. Il y a des gros enjeux au US Open, on le sait. Les commanditaires la regardent en ce moment. Elle a dû se sentir quand même physiquement suffisamment bien pour dire « OK, j'y vais, tout pris en compte », parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'enjeux pour le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, des gros points, des revenus importants potentiels. C'est 100 000 $ quand même pour une défaite au premier tour. C'est pas négligeable. Mais j'ai l'impression qu'avec son équipe, avec Nathalie Tauziat, sa coach, avec Noëlle Van Lottum, directrice du volet performance du côté féminin, qui était avec elle aussi à New York, ils ont pris une décision éclairée, puis ils ont dit « Écoute, ça vaut la peine d'y aller quand même ». Mais quand j'ai vu le début du match, que j'ai vu la grosseur de son taping, j'ai dit « Oh, yo, c'est pas un taping préventif, là. C'est un taping curatif qu'elle avait. C'était quasiment un plâtre. Là.
C'était
vraiment un gros taping. Donc voilà, donc je pense qu'ils ont pris une décision éclairée, mais quand j'ai vu l'allure du match, je me suis posé la question aussi. Est-ce qu'il aurait peut-être dû faire l'impasse sur le US Open? Mais encore une fois, ils ont pris une décision en équipe et ils sont allés de l'avant.
Mais oui, ils sont allés de l'avant. Est-ce que c'est la meilleure décision qui a été prise? Honnêtement, moi je la remets en doute. Parce que bon, d'aller offrir une performance comme ça après un aussi beau tournoi, oui, de l'œil d'un commanditaire, Hugues, c'est peut-être pas la meilleure version d'elle-même qu'elle a offert hier. Puis quand tu regardes ça, tu te dis, ben, est-ce que c'est plus ça Victoria Mboko malgré la blessure, ou c'est ce que j'ai vu à Montréal? Parce que ça pourrait aussi être une grosse ascension de 2 semaines et le restant un creux de vague.
Ouais, ça, soyons prudents sur ça. J'ai eu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. On dit, bon, encore un autre feu de paille, comme Andrescu, comme Eugénie Bouchard, comme Leila Fernandez. Leila Fernandez est toujours dans le top 35 aux dernières nouvelles. Elle gagne des tournois. Andrescu, il y a eu plusieurs problèmes au fil du temps, au niveau blessure. Mais pour Mboko, on a le package complet et on a une maturité pour une jeune fille de 18 ans, moi, qui m'a impressionné, qu'on a tous remarqué, là, son sang-froid à Montréal, ses nerfs d'acier sur les points importants. Elle a beaucoup de qualités qui font pour moi une grande championne potentielle. Donc, je m'attends à ce qu'elle reprenne l'ascension au niveau du classement là, très, très rapidement. Puis, elle s'est sûrement dit, Alex, j'ai fait la finale à Montréal et je l'ai gagnée avec la même blessure. Donc là, elle a eu un gros 2 semaines de repos quand même et de traitement quotidien, assurément. Mm-hmm. Fait qu'elle devait se sentir suffisamment bien. Elle a évidemment pratiqué beaucoup durant ces jours-là. Donc, elle devait avoir assez de signaux positifs pour se dire « je vais de l'avant ». Mais encore une fois, dans le match, c'est une combinaison de la qualité du match de Krejcikova qui fait qu'on a eu un score de 6-3, 6-2 et du fait que Mboko était quand même pas à 100%. Donc, encore une fois, je ferais pas un trop gros cas de cette défaite au premier tour.
Je t'amène du côté des hommes. Gabriel Diallo hier contre Damien Dumour. Peut-être une petite frousse à la deuxième manche lorsqu'il a perdu le set. Il y a eu des ennuis physiques aussi. Il réussit à s'en tirer en quatre manches. 7-6 avec un bris à 7-4, 4-6 et 7-5, 7-5. Ça n'a pas été aussi facile qu'on aurait pu le croire.
Ça a été un match extrêmement accroché, très difficile pour Gabriel physiquement, tu l'as dit, il se sentait pas très bien. Après sa perte du deuxième set, il a retraité au vestiaire, sûrement pour aller prendre quelque chose pour stabiliser son estomac. Il a été malade sur le terrain à la fin du match, après la poignée de main. Il était visiblement pas très bien, mais quelle opposition quand même du Bosniaque, là, du Mo. Ça a été un très bon match autour de 3h30, là, un long match quand même, contre le 61e mondial, mais bon, ça passe pour Gabriel. Il jouera contre Munar au prochain tour, là, demain. Donc, 44e mondial, mais quand même, belle performance. Et on a vu, Alex, à quel point Diallo est un bon compétiteur. Tu sais, c'était pas un match facile. C'est un match qui aurait pu un peu peut-être décrocher à un moment donné. Il s'est battu sur chaque point, même si c'était vraiment difficile. Il a fait beaucoup de fautes directes dans le match aussi. C'était pas un match de très haute qualité pour Gabriel, mais il a trouvé une façon de gagner. Et ça, c'est signe, encore une fois, d'un très bon athlète et d'un champion potentiel qui va continuer de monter au classement. Je te le dis, moi, Gabriel, c'est mon choix du côté masculin dans le contingent canadien cette année.
Il va affronter Jaume Munar au prochain tour. À quel genre de match tu t'attends? Je m'attends sérieusement à ce qu'il gagne, moi, ce match-là. De ton côté, ça ressemble à quoi la vision que tu en as?
Ouais, Munar, 44e mondial, c'est un très bon joueur. Et quand on est dans le top 50, il peut se passer beaucoup de choses. Mais encore une fois, Gabriel est sur une phase ascendante. Il a un tennis d'attaque qui va très bien avec la surface assez rapide du US Open. Munar, joueur espagnol, assez classique, très bon relanceur, très bon en défensive. Va retourner beaucoup de balles, mais je pense que le service et le gros coup droit de Gabriel va lui donner un avantage sur ce match. Je m'attends à une victoire de Gabriel au prochain tour.
Denis Shapovalov, lui, affronte Martin Fucsovics un peu plus tard ce matin. Quel genre d'adversaire c'est Fucsovics? Puis est-ce que tu penses que l'inconstance de Shapovalov pourrait entrer en jeu aujourd'hui?
Chapeau, c'est une boîte à surprise, tu le dis, hein? Donc, gros adversaire, Fucsovics, qui vient de tout récemment de gagner un titre, d'ailleurs. Joueur extrêmement en forme physiquement. 63e joueur mondial. C'est une grosse opposition au premier tour. Moi, je dis 50-50 sur ce match-là pour Chapeau, mais quand Chapeau est en forme, il est capable de performances étincelantes. Il peut battre des joueurs du top 10 n'importe quand s'il est en forme. Donc, ça devrait être un match assez serré, mais beaucoup de difficultés, là, à mettre une prévision sur ce match-là. C'est le premier match qui commence sur le court 17, donc dans quelques minutes à 11h.
Ça va être suivi par Roger Aliassim contre Billy Harris. On s'en est parlé hier, je connais peu Billy Harris. Et Félix Roger Aliassim a de la difficulté dans ses entrées de tournoi. Ben oui. Mais je vais dire ça de même. Ce serait le fun d'avoir trois Canadiens qui avancent au deuxième tour chez les hommes.
Ben, ça serait bien le fun, hein? Puis on en parlait hier, première fois qu'on avait cinq têtes de série dans le contingent canadien. Donc moi, écoute, je pense que oui, les trois peuvent passer. Donc Félix, qui est 25e favori, qui joue contre Billy Harris, qui est un qualifié quand même, 151e mondial. C'est un tour très, très, très prenable. C'est une défaite, c'est une victoire qui doit pas échapper, Félix, dans ce match-là. On le sait, ses entames de tournoi sont souvent un petit peu tendues, crispées, puis il semble aller mieux plus les tournois progressent. Donc, espérons que ça va bien se passer parce que c'est un premier tour entre guillemets idéal pour lui là, contre Billy Harris, l'anglais.
Je veux te ramener du côté des femmes. Madison Keys s'est inclinée hier dans un gros, gros match. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'observer ce match-là, mais ça doit être quand même une déception pour l'Américaine et surtout pour le public là-bas qui avait une tête de série mais américaine très bien classée après Coco Gauff.
Oui, puis elle a une très bonne saison. Hein. Elle a gagné Madison Keys en Australie, le premier grand chelem de la saison en début d'année. Puis c'est une joueuse, encore une fois, qui a un style de jeu qui se prête très bien aux surfaces de New York. Grosse déception quand même. Là, elle était attendue dans les joueuses américaines pour la deuxième semaine. Donc, fin de tournoi rapide pour Madison Keys.
Écoute, Hugues, merci pour ton temps encore aujourd'hui. Très content de t'avoir jasé. En passant, j'ai commencé à garder les billets pour le US Open. la semaine prochaine. C'est pas donné, cette histoire-là?
Ben, tu peux en tout. Moi, j'ai regardé récemment, là, tu peux en avoir quand même là, Upper Deck sur le Arthur Ashe à 250-300$. Donc, cherche un peu encore, tu vas trouver. Mais oui, c'est sûr que plus ça va avancer, plus les prix vont augmenter. Puis évidemment, les matchs vedettes sur le central en soirée sont très en demande. Oui. On va avoir des billets à 1000-2000$ aussi. Mais continue de chercher, Alex, ça vaut la peine.
Oui, ben, je suis pas inquiet que ça vaut la peine. Mais là, je regardais ça hier. Colin, je suis assis dans les hauteurs. 200, 300, ben voyons, c'est bien cher cette histoire-là. Plus, c'est en américain, c'est en dollars américains en plus.
Oui, bien, écoutez, c'est le grand chelem des États-Unis. C'est un événement majeur qui mixe autant le sportif que le lifestyle. Beaucoup de vedettes cinéma, télé qui se retrouvent dans les estrades du cours central Arthur Ashe. C'est un événement qui est très, très prisé. Ben, c'est pour ça que les billets se vendent très bien. Hein. Puis c'est pour ça que ce stade est le plus grand du monde. Hein. C'est 21 700 places, le Arthur Ashe, avec deux autres show courts, donc il y a beaucoup d'intérêt pour le US Open, mais c'est vraiment un beau moment de l'année. Là. C'est le passage entre l'été et l'automne. C'est la fin de la saison de tennis officiellement. Puis encore une fois, des gros, gros enjeux, évidemment, au US Open cette année. La place de numéro un, tant du côté masculin que féminin, est menacée. Donc pour Sabalenka et pour Sinner. Donc beaucoup d'intérêt pour le US Open cette année.
Hugues, est-ce que c'est comme à Montréal? J'achète des billets en soirée, j'ai accès au site pendant la journée?
Non, tu peux rentrer seulement, je crois, à partir de 4h30 ou 5h. Donc, tu peux pas rentrer en début de journée. Là. Il va y avoir un changement parce qu'il y a trop de monde sur le site. Donc, il vide le site avant de faire le changement pour la session de soirée.
Bon à savoir. Merci, Hugues Léger, puis on se reparle plus tard cette semaine.
Bonne journée, les gars. Salut.
Salut, bye-bye. Hugues Léger du podcast Sur la ligne qui était avec nous pour jaser du US Open.